On se tutoie sur Nostalgie. Jean-Luc Reichmann.
1969, dans le cerveau, j'ai découvert des trucs sur toi complètement dingues.
Ah oui, mais alors là tu parles de... D'abord, j'étais un bébé, j'avais 20 ans. Mm-hmm. Et puis, j'étais encore au cours. Moi, j'étais encore au cours de théâtre. Mm-hmm. Et pour subsister, j'ai fait des milliers de métiers, dont figurant. J'ai fait figurant dans le cerveau, j'ai fait figurant avec Robert Hossein, dont j'ai tué Rasputin, j'ai fait figurant dans des films dont on a oublié le titre, avec Céro, Poiret, Francis Blanche.
Mais le cerveau, Gérard Horry quand même, le cerveau.
Oui, mais j'étais dans une scène de marché, je me souviens, où la bagnole arrivait avec Bourvil et Belmondo, j'ai à peine entreaperçu, puis c'est tout, je regardais des pamplemousses, je regardais parce qu'il y avait un accident, point final.
Voilà.
Je sais me retrouver parce que je me souviens de la veste que j'avais en daim, mais sinon, tu vois, c'était...
Ouais.
Mais ça me payait des cours, j'étais content, j'étais très content. Puis je reniflais un peu ce monde du cinéma qui était totalement inconnu pour moi.
Et tu le renifles de mieux en mieux en 73 dans les aventures de Rabbi Jacob.
Oui.
Hein ?
Oui, c'est vrai.
Mais qui se rappelle de Gérard Darmon dans Rabbi Jacob ?
Il y en a. Ceux qui n'étaient pas enrhumés, donc qui n'éternuaient pas. Mais non, moi, si tu veux, là, non, parce que c'était mon premier mot, ma première phrase au cinéma, c'était la mort.
Ouais.
Voilà, je devais dire ça avec Afares.
Ça commence bien.
Ça commence bien, c'était comme ça. Mais là aussi, c'était la regrettée dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir.
C'est pour ça qu'elle le regrette aussi. Elle.
Oui.
Oui, parce que tu as oublié le nom.
Non, mais qui n'est plus là, qui était l'équivalent de Besnéard à l'époque.
D'accord.
Margot Capelier.
D'accord.
Margot Capelier, qui était une petite bonne femme qui ressemblait à Edith Piaf.
Casting.
Casting.
Hein, il faut dire aux auditeurs, c'est un casting.
Plus grand du casting, la plus grande. Elle aimait beaucoup les acteurs. Moi, elle m'aimait beaucoup. Je sais plus où elle m'avait vu. Et un jour, elle m'a appelé en me disant, ça, tu veux faire du cinéma? Parce qu'elle avait une voix comme ça, un peu arlétique. Voilà. Je dis, moi, tu sais, j'avais déjà une fille parce que j'étais papa à 20 ans. Et il fallait que je paie mes cours et tout ça. Moi, je prenais tout ce qui venait, tu vois. Je vendais des mixeurs, je vendais du pinard, je faisais des...
Ça veut dire qu'aujourd'hui, t'es arrière-grand-père, c'est
pas
ça?
Pas du tout. Je vais me déplacer, tu vois, tu vas pas finir l'émission. Pas du tout, je suis grand-père, ça c'est vrai. Je l'ai été très tôt, j'étais à 50 ans grand-père.
Ah ouais, ben.
Donc voilà, elle me dit, est-ce que tu veux faire ça? Tu vas aller voir Horry, il présente. Donc je suis allé le voir, ça lui a plu, il m'a pris pour 3 jours. Et puis j'étais donc dans la fameuse cuve de
chewing-gum.
De chewing-gum, qui était en réalité de la pâte à crêpes.
Et alors là, t'en as pris plein les yeux pendant.
J'en ai pris plein les yeux, mais ma cornée s'est décollée.
Il faut expliquer aux auditeurs, effectivement, qui connaissent pas les aventures de Rabbi Jacob, tu tombes dans une énorme cuve de chewing-gum, et donc là, c'est pas du chewing-gum, c'est de la pâte à crêpes, et ça te bouffe.
Avec du colorant, c'est le colorant qui me bouffe. Ils ont discuté toute une matinée, c'est le cinéma à l'ancienne, est-ce qu'on met du colorant vert, du colorant rose, voyons voir, on se réunit.
Ouais.
Briefing, ils reviennent, c'est du vert.
Le vert, c'est la chlorophylle,
chlorophylle,
ça représente Hollywood chewing-gum à l'époque.
Exactement. Donc voilà, moi je tombe dans la marmite, une espèce de pâte à crêpes, enfin on était jusqu'au-dessus de la tête. Et cette cornée qui se décolle, tout le monde s'en fout, hein, parce que moi je suis une merde, on voit le cinéma, c'est très hiérarchique. Sauf que le lendemain, ça arrive à De Funès, la même chose.
La cornée qui brûle.
Donc on a le même ophtalmo qui vient nous voir, qui nous ausculte et qui nous donne le même traitement.
Et là, c'est pas
donc,
la même
chose. Donc au lieu de durer 3 jours,
ça
a duré plus de 10 jours. Donc ça m'a fait du blé, tu vois, j'étais content, j'avais gagné de l'argent, j'avais De Funès avec moi, on se soignait mutuellement.
Ouais, les gouttes dans l'œil.
Voulez-vous que je vous mette une goutte dans l'œil? Enfin, tu te rends compte, j'avais 20 ans.
C'était déjà le titre d'un film, voulez-vous que je vous mette une goutte dans l'œil?
C'est un titre.
Mais bien sûr.
Un titre, c'est un peu, voilà.
Alors ça continue après.
Un film de Boule.
Et Bill.
Oui, Boule et Bill.
Bien sûr, évidemment, on va pas en parler ici. En revanche, en parlant de film de Bill, en 1980, le grand public te découvre avec Jean-Jacques Benex. Tu joues quoi, Lantillet? Tu joues quoi?
Je suis Lantillet dans Diva.
Dans Diva?
Diva, ouais. C'est mon premier vrai film Diva. Ouais.
C'est pour ça que
avant Le Grand Pardon.
Et c'est exactement ça, puisque Le Grand Pardon, après, c'est Alexandre Arcadi.
Ouais.
Quand t'as un premier film Diva et c'est Benex, quand même, là, il faut
mais
y aller.
Tu le sais pas, ça. Oui, mais tu le sais pas. C'est Besnéard qui est venu. Je jouais avec Bakri dans un café-théâtre qui a disparu, qui s'appelait Les 400 coups. On jouait un spectacle de fous furieux.
Ouais.
On avait personne. On jouait une fois par semaine, s'il y avait personne. Mais Besnéard, qui faisait bien son travail, est venu nous voir. Et après, il m'a dit, si tu veux, va voir un mec qui fait son premier film, va le voir. Il s'appelle Benex. Je pense qu'il peut t'engager. Il y a peut-être quelque chose pour toi. J'y suis allé. Il n'y avait rien. Il me dit, ah, j'avais bien un rôle, mais je viens de le donner. C'est un mec de la Comédie Française. Il va faire, il s'appelle Lantillet. Et je ne sais pas pourquoi, je te jure que c'est vrai. Je dis, mais il va pas le faire. Il va se péter une jambe.
Génial.
Il s'est pété une jambe.
Génial. Tu l'as poussé.
J'ai mis un œil au pauvre.
Tu l'as poussé dans la cuve de chewing gum.
J'avais honte.
Ouais.
Je dis putain, c'est pas vrai. C'est bon. Bref, donc il m'a filé le rôle et puis je l'ai fait comme ça, l'Antillais. Tu vois, c'était un coup de bol.
Le gros coup de bol.
Avec Pinon, avec Dominique Pinon et Boringer.
Mais on se rappelle bien d'ailleurs. Ouais. Tu parlais de Bacri. Bacri, c'est quand même une vraie rencontre dans ta vie. C'est un homme extraordinaire.
Jean-Pierre, ça a été une rencontre. C'était une. Il y avait une espèce de gémellité entre nous. Tu vois, il y avait quelque chose de fraternel. C'est d'ailleurs pour ça qu'un jour on a explosé, on s'est séparés, mais comme on ne sait pas pourquoi, on s'est retrouvés 10 ans après, mais on a eu 10 ans de récré, alors qu'on s'aimait comme des frères, comme des, tu vois, c'est... Bon, c'est comme ça. Il avait son caractère, j'ai le mien aussi.
Il paraît, ouais.
Ouais, ouais. Mais tout ça, c'est, si tu veux, quand je pense à Jean-Pierre, d'abord je pense à intelligence et je pense à rire.
Ouais.
Voilà, parce qu'on a passé notre temps, notre vie à se faire rire.
Premier degré, deuxième degré, troisième degré, quinzième degré.
Huitième degré. Ouais. Voilà. Et c'est vrai, je peux te dire que c'est vrai. Il y a des témoins de cette époque.
Ouais.
Je peux dire que c'est vrai. Donc voilà. C'était une. Et je savais, dès qu'il a commencé à écrire, Jean-Pierre, il a eu des prix. Je me souviens, il a commencé par Le Grain de Sable et puis plein de choses comme ça. Et je savais qu'il allait faire quelque chose dans cette voie-là. Il a fallu la rencontre avec Jaoui pour que ça se concrétise.
Mais Agnès Jaoui, qui est devenue son épouse après. Ils ont fait Les Cuisines et Dépendances pendant des années au théâtre.
Moi, j'aurais adoré jouer dedans. Non, mais c'était la période où on était fâchés.
Ah ouais, c'est donc ça ne marchait pas obligatoirement. Alors, ouais. Le Grand Pardon, on se rappelle évidemment de cette musique. Ouais. C'était vraiment un élément révélateur.
On est tombé sur deux ou trois types à bouler, on leur a mis une tête. Comme ça, ils ne recommencent plus. C'est tout.
C'est des souvenirs, la petite musique de tes paroles.
Oui, ce sont des souvenirs, ça. C'est de très bons souvenirs. Quand on fait ce genre de truc, on ne sait pas qu'on est en train de le faire.
Hein. Ouais,
quand on fait Diva, je ne sais pas comment on va faire Diva.
Ouais.
Autant que Diva, quand c'est sorti, ça a été un bide terrible à Paris, en France. Moi, j'étais avec Benex en bas au Marignan. Il y avait 30 entrées au premier jour. À côté
et là,
de nous,
tu pleures.
On pleure à côté de nous. Il y avait le Roi des Cons. Je me souviens avec Francis Perrin.
Bien sûr.
Puis il y allait tous le Roi des Cons, Roi des Cons, Roi des Cons. Un Diva de temps en temps.
Ouais.
Résultat des courses, rien. Il a fallu que le film aille aux États-Unis.
Et qu'il revienne.
Chope l'Oscar.
Ouais.
Et reviennent, et là, ça a été le film, ah là là, le film culte, attention, la beauté, l'esthétisme, voilà. Mais bon, c'est comme ça, j'étais pas en train de me dire, tiens, je suis en train de faire un truc, ça va devenir un film culte.
Ouais, mais ta vie, elle est faite comme ça.
Oui.
Parce que quand il y a 37-2 le matin, en 1983, les
un peu plus tard, je crois, 87 peut-être.
Alors, je sais pas, c'est ce qu'il y a sur ma fiche, mais il y a aucun problème.
Je suis ta fiche vivante.
Ouais, j'aime bien.
Ouais.
Tu sais, ça, c'est un sketch, je suis ta fiche vivante.
C'est aussi un titre, ça.
Ça peut être un titre, on en parlera plus tard.
D'accord.
Mais Benex, la rencontre, les auditeurs de Nostalgie ne sera peut-être plus que tu as fait une apparition aux côtés de Béatrice Dalle et de Jean-Hugues Anglade.
Oui.
Ça aussi, c'était hyper émouvant. C'était du côté de Narbonne, c'est ça ?
C'était plus qu'une apparition parce que ce rôle-là, j'ai été nommé pour les Césars.
Ouais.
Que je n'ai pas eu royalement.
Tu les as bien évités, bravo.
Je les ai bien évités, mais il a fait un bon texte du Bosque sur la.
Il a été extraordinaire,
oui, il a été
tu veux
bien,
dire.
Oui, il
le mini César du mec qui aura jamais de César.
Le Césario, oui, c'était pas mal.
Ah, c'était bien, tu rigoles, bien, quoi, tout le monde l'a repris.
Oui, c'est vrai.
Oh, je l'ai eu en invité et il m'a dit, je vais faire ce texte-là, qu'est-ce que tu en penses? Les auditeurs de Nostalgie sont témoins, puisque c'était le soir même quasiment, et le mec, il a cartonné.
Oui, cartonné.
On s'est régalé avec l'ami Francky. 37-2, donc c'est quand même aussi un joli révélateur pour toi quand même.
Oui, c'est un joli révélateur, mais entre-temps, entre Le Grand Pardon et 37-2, il y a la rencontre avec Tony Gatliff, quand même, et les princes.
Pour ceux qui n'ont pas la référence, Tony Gatliff.
Tony Gatliff, c'est un mec qui a eu la palme à Cannes avec Gadjo, le film sur les gitans. C'est un grand metteur en scène. Réalisateur de renom, qui fait son métier d'une façon un peu indépendante et qui nargue un peu le système.
Et qui ne s'occupe pas des candidatons, quoi.
Non, voilà.
Alors, un homme aussi qui a beaucoup compté dans ta carrière, 89, 92, 93, Lelouch, Il y a des jours, il y a des lunes, La Belle Histoire, tout ça pour ça. Ça aussi, ça fait monter une carrière, quand même.
Oui, jusqu'au dernier, L'Amour, c'est mieux que la vie, il y a 3-4 ans.
Mm-hmm.
Là où ça aussi, c'était... Mais moi, je vis ça, ça existe, hein, je vis ça les yeux éveillés, parce que je je sais très bien que ce sont des rendez-vous comme ça avec le... Il y a quelque chose de mystique là-dedans. Moi, je suis dans ma cuisine. Un matin, il est 7h, le téléphone sonne. Je vois Claude Lelouch. Il dit, tiens, Claude, c'est 7h du matin, qu'est-ce qu'il veut? Il me dit, allô, salut, tout. Je lui parle. Dans ma tête, je me dis, il va me proposer de passer dans un de ses films, comme je le fais 4 ou 5 fois.
Ouais.
Pas mal d'ailleurs, une fois avec Lanvin, qui était pas mal dans Il y a des jours et des
nuits. Gérard Lanvin, ouais.
Voilà, et puis il me dit, est-ce que tu veux être le rôle principal de mon prochain long-métrage? J'ai dit, Claude, ça fait 35 ans que j'attends ce coup de fil. Donc il me dit, bah voilà. J'ai dit, bah écoute, je suis ravi, il me dit, c'est avec Sandrine Bonner, je suis encore plus ravi. On commence quand? Il me fait, demain matin.
Extraordinaire. Et c'est parti le lendemain même?
C'est parti le lendemain même.
Là, t'annules tous tes rendez-vous chez le dentiste?
Ah oui, t'annules tout, oui. Plus rien n'existe.
Ouais, plus rien n'existe.
Puis, c'est tout.
Et puis, le moment fort pour nous tous. Alors là c'était assez émouvant. En parallèle pour moi, puisque j'étais voix off sur Canal Plus 94. Là, pour nous tous, c'est l'élément détonateur.
Vous voulez un whisky?
Ou juste un doigt?
Vous voulez pas un whisky d'abord?
Ça, c'est notre Chantal Lobby d'amour. La cité de la peur, les nuls. Le commissaire s'appelle Bialès, c'est
Bialès,
ça?
Bialès. Bialès. Ouais. Mais cette réplique-là, ouais, la première fois que l'on l'a dite, c'était...
Dans un sketch?
Dans un sketch à la télé, on a fait le premier roman photo en direct.
Ouais.
Tu vois?
Mais je vois très bien.
Et c'était, voilà, on était, tiens, numéro 8. Ah, ça doit être le numéro 8. Tu vois, on s'est... Et c'est là où je lui dis, vous voulez un whisky? Elle me dit, juste un doigt, je voulais pas un whisky d'abord.
Ouais.
Voilà, ça a commencé là et on l'a reprise pour le film.
C'était un moment hyper culte. Et puis on va en reparler dans un instant parce que t'as dû bosser comme un fou sur la chorégraphie obligatoirement, oui, avec Alain Chabat. Là, il y a du travail, monsieur Gérard Darmon.
Oui, il y a deux mois de travail avec, ouais, Molly Molloy, qui est une comment on appelle ça, une
chorégraphe.
Une chorégraphe.
Bien sûr.
Le mot me manque.
Non, mais j'ai pas un problème. Je suis un dictionnaire de mots d'art.
C'est l'alcool. Sauf si je suis déjà ivre.
Ben oui, c'est normal. Il est 19h, voilà, et quelques. Voilà. Je te comprends complètement.
Voilà.
Et alors, 2 mois de travail avec cette chorégraphe.
2 mois de travail. Elle hérite de deux roues de secours rouillées.
Ouais.
Et puis elle en fait
entourée de vieux pneus,
de belles jantalus, tu vois.
Ouais.
Ouais, vraiment. Elle était. Et moi, on a bossé vraiment.
Mais c'était extraordinaire. Je dois t'avouer que j'ai un fils qui s'est marié et il a ouvert son mariage avec la carioca,
avec cette chorégraphie.
Ouais.
Eh oui, mais t'as vu, c'est pas simplissime. Hein,
ah,
c'est
mais pas
juste,
du tout.
Je bouge du croupion et je fais semblant. C'est
oh oui, youpi.
Ouais.
Ah non. Là, on sent qu'il y a du boulot.
Il y a du boulot.
Vous l'avez bien compris sur la route du week-end. La trompette est sanglante. Oh les cœurs, oh le corps, le temps qu'il s'étouffe en train de tousser, ne vous inquiétez pas.
Pardon.
On va encore se remémorer. La carioca.
Dirk Gainsbourg, écoute bien.
Écoute bien. Attention.
Dirk Gainsbourg, Chabat.
Ouais. Au début. Chose.
Oui.
On laisse la carioca sur Nostalgie, sur la route du week-end avec Gérard Darmon.
Écoute là.
On se tutoie.
Sais-tu danser la carioca? Ce n'est pas un foxtrot ou une polka. Ce n'est vraiment pas très compliqué pour la comprendre. Suis bien mes pas.
Suis bien mes pas.
Ce n'est pas un tango ou un cha-cha.
C'est pas un tango ou un cha-cha.
Une bossa nova.
Ah putain. Juste pour recevoir les deux maracas, là, c'était un... Paf, qui t'arrive hors champ, comme ça. Plaf,
ouais. Et après, c'est youpi.
Oui.
Là, c'est la délivrance.
C'est dingue, hein. Tu fais des choses et tu sais pas que 30 ans après, on va t'en parler comme ça avec autant d'amour.
Ah, mais là, c'est de l'amour pour
oui,
nous
oui,
tous.
Oui, oui, oui.
T'étais au mariage de mon fils. Oui. Non, mais tu comprends ce que je veux dire.
Oui, très bien.
Et on danse la carioca.
Ah, oui, c'est fou.
Et puis là, ça.
Il faut lire aux autres danses. Au revoir.
J'adore. Je suis fan de chez fan. Alors, on continue évidemment cette carrière artistique avec Astérix et Obélix.
Oui.
Là, je faisais référence évidemment à pas de pierre, pas de construction,
oui,
pas de palais. Là, alors là, tu fais partie de nous, là.
Oui, tu veux que je plombe un peu le.
Ouais, je veux que tu plombes. Non, je veux que tu plombes la soirée.
Non, je vais plomber la soirée. Je vais pas la plomber parce qu'en définitive, la fin est heureuse, comme tu le sais.
Ouais, parce mais que t'as été nominé au César.
Oui, mais quand... Ça, c'est la, ça fait partie de la fin.
Ouais.
Mais quand je vais à mon beau-fils...
Quand tu joues ?
Non, quand je vais voir Chabat.
Ouais.
En réalité, c'est suite à un déjeuner avec Lindon. Je fais rien depuis presque 2 ans et demi. 3 ans parce que je suis dans ma vie privée en kit, explosé total.
Tu es Ikea.
Voilà, complètement. Je suis Ikea.
En kit.
Exactement, en kit. Et je n'ai plus envie de rien, ni de faire ce métier, je veux rien faire, je m'en fous, en fait, c'est comment on est.
Douleur amoureuse, quelque chose qui s'est brisé.
Voilà. Et donc Lindon me dit, écoute, franchement, si tu veux, j'appelle l'AFP, je dis que t'arrêtes. Mais sinon, tu peux toujours appeler Chabat parce qu'il est en train de monter Astérix, t'es au courant? Je dis non, pas du tout. Bref, je l'ai fait, je l'ai appelé. Il se tape le front en me disant, ah, j'ai rien pour toi, j'ai oublié complètement, j'ai rien du tout. Il me dit, regarde, il y a ça, ce mec. Il me fait lire et je vois 2 phrases et demie.
Ouais.
Bah, je dis, Alain...
C'est léger, quoi.
Je suis choqué, je suis à la rue, mais...
Pas à ce point-là.
C'est un peu léger, là.
Ouais.
Il me dit, ben, je sais pas, il m'en rajoute 4 ou 5. Je dis,
ouais.
Et comme j'étais tellement largué, je me dis, je vais partir. Tant pis, j'y vais. Je le fais. Et moi, pour moi, dans ma tête, je pars pour retourner 3 jours, tu vois.
Ouais.
Et au fur et à mesure de la... Ça, c'est le miracle. Au fur et à mesure du tournage, dès le premier jour, mon personnage devient une mascotte. Je sens que ce personnage plaît, mais tout de suite avec
sa robe. Mais tu le sens sur les techniciens, tu vois les sourires.
Mais l'équipe.
Mais évidemment.
Ah bah, quand t'as l'équipe avec toi.
La maquilleuse.
Ah oui, parce qu'ils trichent pas. Hein,
jamais.
Voilà.
Ça part de là. HMC, habillage, maquillage, coiffure.
Exactement.
Ouais.
D'ailleurs, tout part de là.
Ouais.
Y compris les ragots les plus salopards.
Tout part de là. Ne l'oublions jamais, monsieur Darmon.
Et crois-moi, je l'oublie pas.
On les embrasse.
Oui, pas tous.
Ouais,
mais on les embrasse quand même.
Voilà.
Oui, absolument. Et donc voilà. Et au fur et à mesure, Alain, qui est un renard et qui est un intelligent et qui
on l'appelle d'ailleurs Alain le renard.
Alain le renard. Mmh. Chabat, ça veut dire renard.
Ben évidemment, c'est pour ça que j'en parle.
Écrivait tous les jours des choses avec Jamel et moi. Il a senti que le duo fonctionnait. Donc le rôle, ça fait ça a augmenté. Je suis resté 6 mois.
Voilà. C'est-à-dire que le gars, il part sur 2 lignes.
Ouais.
Après, il dit, tiens, si tu pouvais gonfler un peu le scénar pour le rôle. Et d'un seul coup, tu pars pour 3 jours, tu restes 6 mois.
Ouais, absolument. Et je te passe les détails. Parce que les détails d'humiliation et tout ça, de la part de ceux qui pensaient que j'étais un has-been ou tout ça. Parce que tu es traité comme ça aussi.
HMC aussi.
Non, pas par le HMC, par les gens qui ont un peu plus le pouvoir. Mais il se trouve que quand Claude Berry est venu sur le plateau.
Oui.
Il m'a vu, il s'est dirigé directement sur moi.
Ouais.
Il m'a pris dans ses bras et dans l'oreille, en m'embrassant, il me dit, tu m'as éclaté, tu vas tous les éclater, t'as tout compris.
Mais t'as tout compris, ça veut dire que pour lui, il y avait ce 2e, 3e, 4e degré qui l'intéressait.
Ouais.
Et lui, tout de suite.
C'était le ton d'Astérix, il voulait que ce soit comme ça.
Oui.
Voilà, bien sûr.
Oui, mais tu ne le savais pas à la base.
Non, je ne savais pas à la base, mais tu vois, quand je trouve le rire dont on parle beaucoup, le truc comme
oui.
ça.
Les,
bon, plein de choses comme
dans,
ça.
Dans le livre de la jungle, et confiance.
Voilà des choses comme ça.
Oui.
Parce qu'avant de le faire, je dis, mais il doit bien rigoler un peu ce mec. C'est pas simplement juste un idiot qui est un mauvais architecte. Il doit bien avoir des moments de rigolade. Donc j'ai trouvé le rire comme ça. Enfin bon, tu sais, c'est des alchimies, ça, tu sais pas pourquoi, ça vient. Puis voilà, c'était le moment. Et je m'attendais pas du tout à ces répercussions-là, tu penses bien.
Ah ouais, là, c'était des déflagrations pour nous à l'époque. Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Ouais.
Alors après, on continue, chemin faisant. Moi, j'étais hyper heureux. J'ai reçu Marc Lavoine il n'y a pas longtemps, le Bernard Compan et le Jean-Pierre Darroussin. Vous êtes tous au bord de la piscine. C'est Marc Esposito, c'est ça?
C'est ça.
Le mari de Béatrice Esposito, qui m'a mis à l'antenne, je dois t'avouer. Ouais. À l'époque, ils étaient mariés. Ouais. Et le cœur des hommes, ça, pour moi, c'est extraordinaire.
T'as pas peur de te faire chier l'hiver?
Quand tu me fais chier l'hiver, je me fais jamais chier. L'autre jour, j'ai maté pendant 2 heures des fourmis. J'arrivais pas à m'arracher.
Tu as quand même pas passé 30 piges à mater des fourmis.
Mais je verrai bien les envies qui me viendront. Je peux tout faire, c'est ouvert.
C'est extraordinaire, on dirait Bernard Werber qui regarde l'évolution de la fourmi.
Ben voilà.
Vous vous êtes éclaté là, non?
Oui, ça a pas été simple à monter, hein. Ça a été.
C'est-à-dire qu'il y avait du live, il y avait de l'improvisation, il y avait quoi?
Pas tant que ça, parce que.
Pourquoi tu dis que ça a pas été simple alors?
Parce que Esposito venait d'un magazine de cinéma qui est critique de cinéma studio.
Ouais.
Donc tout d'un coup, il passait de l'autre côté, il passait metteur en scène. Mm-hmm. Donc les producteurs à qui il s'était adressé pour avoir de l'argent, tu vois, pour monter le film, il l'attendait au tournant pour certains, tu vois. Ouais. Donc il n'avait pas envie, et puis personne n'y croyait vraiment. Mm. C'est tout le métier refusé, hein.
Ouais.
Tout le métier refusé, les acteurs.
Sous prétexte de quoi, hein?
Ben, parce que pas confiance, c'est son premier film.
Ouais.
Quand t'as pas la carte, quand t'as pas le crédit, c'est comme ça, tu vois. Guillaume Gallienne, je suis sûr qu'il a eu des problèmes comme ça. Quand tu fais ton premier film.
Quand tu commences, ouais.
Ben ouais, voilà, donc ils n'ont pas voulu y aller. Il y a que moi qui était là depuis le début.
Ouais.
Et j'ai changé de rôle d'ailleurs à chaque fois parce que chacun voulait, et non, je voudrais faire ci. Donc, il me dit, bon, ben, Gérard, tu devais faire ci, fais ça. D'accord. Et moi, je lui disais, tu sais, les rôles vont à ceux qui doivent les jouer. Alors, un jour, il y en a trois autres qui vont arriver. On sait pas pourquoi. Voilà. Et Campan est arrivé, Daroussin aussi.
Bien sûr.
Et Lavoine, avec qui je tournais à ce moment-là, avec Neil Jordan et Nick Nolte, sur la Côte d'Azur. Il est arrivé parce
Nick
que...
Nick Nolte, tranquille.
Oui, Nick Nolte.
Ouais. Ouais. C'est mignon.
Ça, c'était magnifique.
Mais ça ne m'étonne pas. Je le vois sur ton visage. Oui, quand il se redresse les lunettes et qu'il se gratte le nez comme ça, c'est qu'il est heureux. Absolument. Et moi, j'étais aussi très heureux en écoutant ça du cœur des hommes.
Je vous l'ai dit, redis, redis, mais non. Ça, c'est comme si je chiais dans la mer. Oh,
moi, j'aime bien chier dans la mer.
Voilà. C'est... Non mais on est où, là?
Ben oui, on est... Ouais. Et tu sais, c'est quand même... C'est drôle parce que on pensait que les femmes allaient détester ce film.
Ouais.
En le pensant misogyne et tout, enfin, tu vois. Et en fait, c'est elles qui ont fait le succès de ce film. Elles ont amené leur mari à le voir.
Mais oui, parce que elles sont dans un petit trou de souris, elles regardent les mecs qui parlent d'elles et que quand il y a une réunion de potes, elles sont pas là, quoi.
Exactement.
Eh ben, ça fait ça. Et puis alors, ça a continué et moi, j'ai aussi beaucoup aimé. On va parler de La Belle Vie. On va entendre La Belle Vie parce que quand tu chantes, bon, les gens ne te connaissent pas obligatoirement en tant que chanteur, mais ça peut donner ça.
Mais La Belle Vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Belle vie.
On va reparler évidemment du film avec Valérie Lemercier où tu chantes très... Mais alors là, j'ai adoré ce film qui va sortir la semaine prochaine, c'est pour ça aussi que tu es là, on ne va pas l'oublier, mais la chanson a fait partie de ta vie, quoi.
Ah, totalement, la musique fait totalement partie de ma vie, moi je suis un chanteur raté, totalement.
Ouais.
Ah ouais, et les trois expériences que j'ai eues, les trois albums que j'ai faits, d'ailleurs je renonce pas à en faire un quatrième, plus les concerts que j'ai donnés, j'en ai donné une cinquantaine, soixantaine à travers toute la France, m'ont poussé à... Il y a eu un avant, un après, quoi. C'est-à-dire, moi, ça a été vraiment le saut de l'ange, quoi. Je me suis dit, si je suis capable de chanter devant une heure et demie, deux heures, devant des gens, il peut plus rien m'arriver.
Ouais.
Et d'ailleurs, ça s'est répercuté sur le théâtre, au niveau du trac, au niveau de tout ça, de cette gamberge qu'on peut avoir, ça m'a fait un bien fou.
C'est-à-dire que t'as moins de gamberge depuis que tu as chanté. Oui. T'as moins le trac.
Oui, je le maîtrise plus.
Et comment tu l'expliques?
Je te dis par ça, parce que c'est une question de... Il y a un petit acte de courage quand même, tu vois, pour aller, pour avoir la vanité d'aller chanter devant...
Ouais, il faut être un peu...
personnes en se disant... Et moi, je me disais, les salles étaient pleines, je me disais, mais... Qui va venir ce soir? Qui va venir à Verrières, le Buisson ou à je sais plus où?
Ouais.
À Patauchnock, venir m'écouter chanter Gérard Darmon? Qui?
Ouais.
Eh ben, c'était plein. C'était des salles entre 400 et 1002, tu vois. Eh ben, c'était plein et ça se passait hyper bien avec mes musiciens et tout ça. Donc vraiment, c'est une expérience. D'ailleurs, je fréquente plus de musiciens que d'acteurs, moi. Je suis plus dans la...
Pourquoi ils sont moins narcissiques que les comédiens?
Je sais pas, je m'entends bien.
Ils parlent moins d'eux?
Oh, ça parle aussi d'eux, mais c'est drôle, c'est un peu, c'est des fous, quoi. Et puis, tu sais, toutes les bonnes blagues, les bonnes histoires qui rôdent un peu.
Ouais.
Dans le côté, ça vient d'eux, hein. Ça vient beaucoup. C'est un.
Les musiciens, les chanteurs.
Ouais, beaucoup.
C'est assez extraordinaire parce que.
Ouais, moi j'adore.
Le père Marc Lavoine m'envoie sans arrêt sur mon WhatsApp les dernières blagues, les dernières histoires qui tournent. Bah oui, c'est ça. Exactement. On se vous voit, voilà. Il me dit, tu sais ce que c'est qu'une hurlute? C'est quand on se vous voit, une hurlute. Parce que mon émission s'appelle On se tutoie, tu comprends ce que je veux dire?
Absolument.
Donc ça,
mais bien sûr.
Et en plus, tu vois, il nous fait rire.
Mais oui.
Donc
mais
c'est vrai que ça vient plus des musicos.
Ah oui, 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 oui. Ouais. Moi, je trouve. Les acteurs, et en particulier les acteurs du secteur de comédie, je ne parle même pas des humoristes, c'est...
Mais raconte moins d'histoires drôles.
Ah ouais, parfois tu passes une soirée, tu fais putain, waouh.
J'ai bien fait de venir.
C'était chargé. Hein.
Wow. Alors chargé, alors d'avoir évidemment, c'est le doublage, parce que quand une voix invite une voix, ça donne ça, Arthur et la vengeance de Maltazar.
Oui, ah, les fiers et vaillants guerriers, je suis là, je suis venu, comme promis. Je savais que je pouvais compter sur vous, mes fidèles soldats. Je vous annonce que l'heure de la vengeance a sonné. Je vous ai promis gloire et richesse. Et Maltazar tient toujours ses promesses.
Ça te fait penser à quoi quand t'entends ça, hein?
Ça me fait penser à quoi?
Ouais, parce que je te vois très dubitatif. Tu te remémores la scène?
Oui, je me remémore ça. Je me dis, j'ai mis du temps à doubler des choses comme ça et j'en ai fait 3 ou 4 depuis. Ça m'a vraiment plu.
Ouais.
C'est bien, c'est drôle.
Ça titille l'imaginaire des auditeurs, des téléspectateurs, quoi.
Ah, voilà, peut-être. Mais c'est bien de coller une voix. D'autant que moi, les miennes, c'était souvent, on me disait, alors c'est Lou Reed qui a fait la voix américaine.
Take a walk on the white side.
Voilà, tu vois, ou des gens comme ça.
Ouais.
Et putain, ça me flatte, j'étais content.
Ouais, ça sonne bien. Hein.
Bah, ça sonne bien.
Et puis après, donc, tu continues, clopin, tu tiens un resto en Afghanistan, Kaboul Kitchen, ça dure pendant 5 ans.
Non.
Bah, on me dit 2012 à 2017.
Mais parce que ceux qui ont écrit des trucs m'ont confondu. D'accord. Avec
Lou Reed.
Avec Jean Reno, peut-être.
Ah oui, peut-être. Alors...
Non, avec Ascalien.
Ah oui, d'accord. Kaboul Kitchen, alors ça dure combien de temps, toi qui tiens le resto en Afghanistan?
Mais je ne tiens pas le resto en Afghanistan.
C'est pas toi?
Non.
J'ai adoré.
Je vais te dire.
Vas-y.
Il y a une confusion parce que je suis allé en Afghanistan.
Ah!
Je suis allé en 2010 en Afghanistan. C'est Drucker qui un jour me dit, voilà, je vais faire une spéciale le 14 juillet. Tu as les parades à Pau. Tu as ceci, je sais pas quoi, l'aviation, un machin. Et tu as Kaboul et l'Afghanistan pour aller. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais en Afghanistan. C'est la guerre, hein. C'est là où... Il me fait, t'es sûr?
Ouais.
Je dis, ouais, je suis sûr. Et je suis allé en Afghanistan. J'ai passé 12 jours en Afghanistan avec les soldats.
Ouais.
J'y suis allé avec, je me suis dit, si j'étais soldat, qu'est-ce que j'aurais envie si quelqu'un venait de France? J'aurais envie de quoi? J'aurais envie d'écouter la voix de ceux qui me sont chers. Donc, j'ai fait faire, au hasard, à l'aveugle, une cinquantaine de
soldats?
Non, de CD pour des soldats.
Pour les soldats, pardon.
Qui sont au hasard. Avec les grands-mères, les enfants, les mères, les papas qui disaient « je t'aime, tu nous manques », etc. Et puis j'y suis allé. Et là, j'ai vu, là aussi, il y a eu avant l'Afghanistan et après l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'il y a eu un discours anti-militariste très pointu. Je pouvais avoir dans ma jeunesse, un peu con-con. Et puis, il y a eu... après, j'ai vu ces gens qui étaient vraiment admirables, absolument admirables. Et puis j'étais content parce que j'ai eu quand même un petit acte citoyen, parce que j'étais avec eux, j'ai beaucoup parlé avec eux, et je voyais qu'ils étaient pas mal installés d'ailleurs, plutôt bien installés. Je leur disais, vous arrivez à communiquer avec Paris, avec la France? Oui, on a internet, c'est un peu long, et puis surtout on paye 20 balles à chaque fois, quoi. Je dis, quoi? Je dis, bah ouais, les Anglais, les Américains, les Italiens, les Hollandais, tout ça, c'est gratos, nous on a 20 balles. Je dis, putain, je dis, les mecs, je sais pas ce que je vais faire, mais je vais essayer. Et une fois que je suis rentré en France, j'ai eu je suis allé voir, à ce moment-là, c'était Hervé Morin qui était le ministre.
Des armées.
J'ai eu son chef de cabinet.
D'accord.
Ou je sais pas qui, en tout cas. Et je dis la situation, etc. Un mois après, j'en reçois une grande carte postale. Merci GG. L'internet est gratos.
C'est pas vrai.
Mais je te jure.
C'est grâce à
ça
toi.
Ça m'a fait un plaisir.
C'est tellement bon de se sentir utile dans la vie.
Voilà, exactement.
Non, mais c'est intéressant, hein, ce que tu dis pour les auditeurs de Nostalgie. C'est de te dire, il y a un avant et un après.
Oui.
C'était quasiment un hasard. Michel Drucker te dit, tiens, tu choisis quoi?
Voilà.
Et toi, tu vas quand même vers le plus périlleux.
Oui, absolument.
Celui qui va te parler le plus.
Oui.
Tu vas vers une inconnue. Et puis, quand tu reviens, ton discours et ton...
Je suis sous le charme. Je fais venir un capitaine de là-bas en lui disant, tu veux faire le défilé du 14 juillet, je discute avec le chef des armées, je déjeune avec le chef des armées là-bas, tu vois, je rencontre des gens importants.
Ouais.
Le mec, il vient, et puis, après, l'histoire est moins drôle, parce que quand il a été libéré, il s'est foutu en l'air, parce que ils sont complètement débrancher les mecs quand ils viennent, tu vois. 6 mois sont passés, 6 mois de guerre, leur ménage, leur, tu vois, leur femme,
ouais, tout ça. C'est plus les mêmes, quoi.
C'est plus les mêmes, ils ont plus de branchement et tout ça. Donc il s'est retrouvé tout seul et il s'est foutu en l'air. Ça m'a beaucoup peiné parce que je l'aimais beaucoup, ce mec. Mais bon, il y a eu de belles rencontres, des mômes de 20, 20 ans, 25 ans, 26 ans, désengagés, hein, tu vois.
Ouais, bien sûr.
J'ai assisté à des réunions, des briefings où je devais pas être, mais comme j'étais invité, là-bas, où ils regardaient les cartes et tout, les cartes militaires très précises. Alors attention, là, il y a une grotte, et machin. Il y en a qui partaient, il y en a parfois qui revenaient pas, tu vois.
Ouais, bien sûr.
C'était.
Ah ouais, quand tu reviens de là-bas, c'est pas pareil.
Tu vois, c'est pas pareil, quoi. C'est tu pas te dis, même. Oh putain, non, pas
le. Révision du jugement, et ça, j'adore.
Ah oui, complètement.
Alors, on continue sur le parcours de monsieur Gérard Darmon, qui est mon invité ce soir sur Nostalgie, que nous pouvons d'ailleurs retrouver en podcast sur nostalgie.fr, je tiens à le préciser. Il y a le théâtre avec Philippe Lelouch, le complètement fou Philippe Lelouch. La mise en scène, c'est Darmon, dis-moi. Tout est à refaire, là.
Oui, ça s'est présenté comme ça. Tous les gens à qui on pensait n'étaient pas libres ou n'ont pas voulu. Enfin, bref, j'ai dit, bon, on va servir nous-mêmes. Moi, je vais faire la mise en scène et puis on est parti pour une belle aventure. C'était une belle aventure.
Belle expérience, le théâtre.
Belle expérience.
Le spectacle vivant, tu aimes. Hein. On va en reparler parce que tu es très, très, très souvent sur scène. Oui. Tu étais pendant tout le mois de mars sur scène. Là, le 17 avril, avec le Château de Cartes, tu seras à Toulon. Mais on va en reparler, bien sûr. Pour l'heure, là, l'élément détonateur chez les auditeurs, les téléspectateurs, c'est effectivement Burger Quiz.
Ah oui.
Là, c'est... Non mais c'est génial ici. Vas-y, continue avec le
Burger Quiz.
Ouais.
Ah oui.
Là, avec la voix off de Bruno Salomon.
Encore une idée.
Maintenant, c'est Gérard Darmon. Oui. Là, c'est vraiment la continuité de l'amitié avec Chabat, évidemment.
Oui, absolument. Puis c'est les idées, surtout d'Alain, l'envie de faire des choses un peu décalées, de bien les faire, avec une équipe autour de lui qui le suit. Et
voilà. Non mais t'as l'improvisation Darmon aussi.
Oui, oui.
Jérôme
mais...
Commandeur, quand il est avec toi, vous partez en croix totale.
Voilà. Je pense que c'est celui-là, j'en ai fait beaucoup, mais c'est celui avec Jérôme Commandeur.
Mais évidemment.
Oui, on était en cacahuète totale, on s'est barré en cacahuète.
Ouais, mais il n'y a pas que là avec Jérôme.
Oui, non mais après, d'ailleurs ça lui a donné envie de me proposer son film, que j'ai fait.
Bien sûr.
Et c'était pareil.
Ouais.
Non mais j'ai une admiration totale pour Jérôme Commandeur.
Une élégance cet homme, une répartie.
Il est magnifique. Il est intelligent, il est drôle, il est raffiné. Mm-hmm. J'aime beaucoup ce mec, vraiment, vraiment beaucoup. Il le sait d'ailleurs.
Quand il présente des émissions, que ce soit les Césars, que ce soit tout ça,
bien sûr,
il est toujours drôle. Hyper juste.
Mais tu l'as vu dans Le Flambeau.
Mais évidemment, on va en parler du Flambeau, bien sûr, avec Jonathan Cohen. Toi, tu interprètes Philippe, écoute ça.
Moi, c'est Philippe Machère.
Philippe Machère,
ma chère de carrière.
Que dalle là-dedans.
La jungle n'a aucun secret pour moi.
Laisse tomber la carte. Moi, je me fie à ce nage.
Voici l'antilope d'Amazonie, l'ours du Tibet,
et puis lui,
que j'ai pris pour un zèbre. Autant dire que je ne fais pas cette émission pour l'argent. Quoique, un peu si, quand même, parce que c'est vrai que j'ai un peu besoin d'argent.
Ça, c'est... tu te marres non,
mais
encore ça,
mais oui, parce que c'est des personnages, tu veux, c'est, t'as une espèce... C'est pas une totale liberté, parce que t'as quand même des limites et des carcans, et heureusement, et puis il y avait Joe Cohen qui était là, et bon, c'est magnifique.
Jonathan Cohen. Ouais.
Il avait envie de mener ça, c'était pas simple, hein. Il avait une bande de, tu vois, entre Jérôme Commandeur, moi, tous les autres.
Tous les lascars qui étaient là.
Lambert.
Il y avait Châtelleret et tout le monde.
Ah, Châtelleret, tout ça.
Non, mais oui.
Mais il y est arrivé, moi, ça me fait beaucoup rire, ça. Ça me fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rire.
Mais ça ne m'étonne pas. Et on continue, évidemment, et ça t'a fait énormément rire. Et nous, on s'est marré comme qui rigole, produit par Andemol.
Ah ouais.
LOL. Il sort.
Ah ouais.
Toi, t'as combien d'enfants?
Moi, j'ai 4.
Ils ont quel âge?
78, 70, 63 et 6 ans.
T'as quel âge, Gérard?
75.
Tu les fais pas?
Si.
Moi, j'ai 34 bientôt.
Ferme ta gueule.
Là, t'as le droit de rire, mais tu te marres après.
Ouais. Et non, et là, j'avais décidé que j'allais gagner.
Ouais.
Et avec Camille Lelouch, qui est une grande, grande copine, c'est une petite sirène, une sœurette, j'adore Camille Lelouch.
Notre Camille Lelouch, évidemment.
Vraiment. Alors, on a décidé qu'on allait gagner, qu'on allait éliminer tout le monde. C'est ce qu'on a fait. Et on s'est retrouvés tous les deux en finale et on s'est dit, allez, à trois, on rit tous les deux, comme ça on se partage le magot, d'accord?
Ouais, c'était pour les associations.
Ben, bien sûr.
Ben, attendez, non, mais les auditeurs le savent pas obligatoirement,
ah, oui,
donc c'est pour ça que je précise.
Ah oui, mais non,
c'est pour
nous. Hein.
Non, non, mais c'est important. Bah, oui, oui. Et peut-être que les gens ils disent c'est pour leur gueule, mais pas du tout.
Ah bah ceux qui disent ça, c'est qu'ils nous aiment pas beaucoup. Hein.
Non, mais c'est peut-être qu'ils avaient pas entendu. C'est pour ça que je me permets de préciser. Donc LOL qui ressort, le défilé des chiens.
Voilà.
Comment il arrive là, ce défilé de chiens sur le tapis roulant?
Eh ben c'est un mec qui me connaît bien, qui me propose un texte, qui me séduit. Je lui dis on peut changer ci, ça, ça, ça. On fait deux trois petits aménagements.
Ouais.
Et on est parti là-dessus.
Alors et ça donne ça.
Bien, j'ai adoré. Vous savez, moi je suis un amoureux des animaux et pour moi l'amoureux du textile aussi que je suis, ma manière de considérer ces animaux a été de leur offrir une collection de prêt-à-porter que je vais donc avoir le plaisir de vous présenter. On accueille notre premier modèle et pas des moindres, le jean pour renard.
Le jean pour renard.
C'est un petit jean dans une coupe loose, fluide, pratique pour prendre le métro en toute décontraction.
Mais là, vous partez dans un délire, monsieur Gérard Darmon.
Oui, c'était magnifique. Et ils sont vraiment mordus les joues à l'intérieur pour ne pas rire. Hein.
Mais nous, les téléspectateurs, à ce moment-là, moi qui suis quand même très souvent avec le président Andemol, puisque c'est Andemol mon producteur, il me dit à l'enregistrement, il sort de l'enregistrement, promets. Ouais. Il dit, il s'est passé un truc aujourd'hui avec Darmon, le défilé sur le tapis roulant. Et je
tout
lui dis, mais quoi? Il
dit,
je ne peux pas t'expliquer ce qui s'est passé. On avait une réunion, il dit, mais je ne peux pas te dire ce qui s'est passé. Là, on voit tous les camarades de jeu qui n'en peuvent plus. Ouais. Qui n'en peuvent plus. C'est un truc de fou.
Normalement, le jeu doit s'arrêter là puisqu'ils ont tous ri.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire?
Oh, bah évidemment.
Mais bon, il a fallu. Parce qu'il fallait continuer.
Mais toi, ton sérieux du présentateur, tu lâches rien.
Ah non, je lâche rien. Ah, je lâche rien.
Mais même pas esquisser un sourire.
Rien. Il faut rien.
Le string du chien. Non mais tu vois.
Mais je vois très bien.
Tu t'étais préparé à autant de violence?
Non, pas du tout. J'y suis allé comme ça en disant c'est ma carte joker. Voilà, il faut que je vous fasse rire. Je vais essayer. Et je voyais bien que ça prenait. J'ai su qu'il s'était passé quelque chose et je t'affirme que les gens quand ils me parlent de LOL dans la rue, ils m'en parlent. Et parfois d'ailleurs je me dis mais attendez j'ai fait autre chose aussi.
Non.
Mais bon. Oui.
Non, vous avez rien fait monsieur. Voilà. Venez faire le défilé de chiens.
Oh là là, le défilé des animaux.
Ouais.
Oh là là. Bon, tant mieux. Moi j'adore ça.
Ah mais ça ne m'étonne pas toi parce que tu es cash sincère et pur. Et alors t'es on ne peut plus sincère parce que ça va être.
J'aime bien que tu dis pur. Ça me touche beaucoup. Que tu es dit pur.
Mais ouais, c'est important.
Bah ouais, j'aime ça.
Et ben justement, on va parler de la pureté de François Valéry. Aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent.
C'est une très belle phrase, je trouve.
Mais attends, c'est fou.
Hein, tu es d'accord?
Mais oui.
Parce que je sais que les petits snobinards, si tu enlèves François Valéry
et
que tu mets Aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent de Mislav Skloubeliet.
Qui n'est pas du tout traduit en français.
Voilà.
Ouais.
Mais sauf pour cette phrase.
Ouais.
Tu vois qu'on fait, mec à l'Est, ils sont.
Eh ben ouais.
Tu
eh ben justement, on va écouter Mislav Skloubeliet
qui
chantait en français.
Son frère.
Bah ouais. Aimons-nous vivants avant que la mort nous trouve du talent. C'est Gérard Darmon sur la route du week-end sur Nostalgie.
Et pour le film, il a fait une autre
version.
Une adaptation, vachement bien. La guitare, elle est très très belle.
On va en reparler parce que ça va être ta pub justement dont on va parler.
Comme une envie de dire je t'aime.
Tutoie sur Nostalgie
avec Jean-Luc Reichmann
tous les vendredis soirs 19h-20h
et à tout moment en podcast sur l'appli Nostalgie.